8h23 à Paris, la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Haro sur la CGT.
Contre la loi travail, contre la réforme du temps de travail à la SNCF, la CGT occupe le terrain social et revendicatif avec force depuis maintenant 3 mois et certains journaux commencent à exprimer une certaine lassitude, pour ne pas dire plus. Ainsi pour La Croix, le dialogue social en France traverse ces temps-ci une phase de régression. La Croix qui déplore le refus de tout compromis manifesté par la CGT et son absence de contre-proposition, sinon pour dire « pliez-vous à mes conditions ». Et pour parvenir à ses fins, poursuit le quotidien catholique, ce syndicat n'hésite guère sur les moyens. Il a utilisé sans scrupule la proximité de l'euro de football pour faire reculer le gouvernement sur plusieurs terrains d'affrontement, à commencer par les transports ferroviaires et aériens. Un simple sentiment de solidarité aurait pu conduire à une suspension des arrêts de travail, là où la population subit les conséquences des inondations. Ce ne fut pas le cas, s'exclame La Croix, et l'on se souvient de la grève du syndicat du livre punissant les quotidiens, dont La Croix, qui avait refusé de publier un argumentaire de la CGT contre la loi travail.
Le Figaro hausse carrément le ton. Une honte nationale, s'exclame le quotidien de droite.
Puisque l'on ne touche à rien, la SNCF demeurera une sorte de réserve indienne coupée des réalités économiques, s'exclame le Figaro, où l'on travaille moins qu'ailleurs sous la protection d'un statut en or massif. Une entreprise moins compétitive que les autres. Partout en Europe, les chemins de fer ont fait leur révolution depuis belle lurette, prête à se faire tailler des croupières lorsque la concurrence viendra. Un groupe voué à vivre aux frais des contribuables qui, en plus de leurs billets, sont priés de régler sa dette et ses déficits. Mais il y a pire, fulmine encore le Figaro. La démonstration est faite que les gros bras de la CGT et de Sud imposent leurs lois dans le pays par tous les moyens et en toute impunité. Peu leur importe ces Français qui subissent des inondations historiques, ces entreprises qu'ils étouffent ou cet euro de football à haut risque qui démarre. Seul compte pour eux la préservation de leur citadelle du rail et le retrait d'une loi travail qui ne les concerne pas.
En tout cas, pour ce qui est de la loi El Khomri, le premier bilan est limpide, lancent les Échos.
Oui, les opposants à la loi ont échoué, affirme le quotidien économique, en dépit de leurs efforts pour actionner les leviers les uns après les autres. Les défilés de rue n'ont pas attiré autant de monde qu'ils l'espéraient. Le blocage des raffineries a pu être contourné. Le trafic de la SNCF a été perturbé, la grève se poursuit, mais le pays n'a pas été bloqué. En définitive, ce sont les actions les plus condamnables qui resteront dans la mémoire collective, les débordements de violence et des coupures d'électricité d'un autre âge qui auraient pu avoir des effets dramatiques. Tout le monde, ou presque, a perdu dans cette histoire, constate encore le quotidien économique. Cette séquence printanière n'a a priori fait que des perdants. Martial, le gouvernement a tenu sur l'extension du champ de la négociation d'entreprise, mais à l'arrivée, le texte loi travail est vidé des mesures qui auraient parlé aux entrepreneurs, par exemple l'encadrement des indemnités prud'homales. Martinez, le leader de la CGT, a quant à lui réussi sa médiatisation, mais il n'a pas obtenu le retrait du projet, son but de guerre initial. Finalement, les seuls gagnants sont les cheminots, constatent également les Échos, alors que les négociations ouvertes depuis des mois à la SNCF n'avaient rien à voir avec la loi El Khomri. Le gouvernement a ordonné au patron de la SNCF, Guillaume Pepy, d'abandonner en rase campagne les timides pistes de réforme de l'organisation du travail de son entreprise, grâce auxquelles il escomptait réaliser quelques économies. Résultat, déplore pour sa part l'Union. La SNCF sort de ce conflit essorée, puisqu'elle a perdu dans ce grand bazar l'équivalent de ses bénéfices enregistrés l'an dernier. Si elle doit de nouveau vivre à crédit, sa dette va reprendre de l'embonpoint, ce qui ne peut pas être une bonne nouvelle.
Libération revient ce matin sur le 80e anniversaire des accords de Matignon en 1936, qui ont instauré notamment la semaine de 40 heures et les congés payés.
Oui, Libération qui fait le parallèle avec la situation actuelle. Il est assez désolant, affirme Libé, de voir qu'une gauche, il y a 80 ans, a su se mettre d'accord sur le temps de travail et la création de conventions collectives au nom du progrès, et que celle de 2016, dans un contexte inquiétant de montée de l'extrême droite en Europe, est incapable, au nom de ce même progrès, pour des raisons de postures individuelles et de calculs politiques, de le faire sur la simple hiérarchie des normes et la démocratie sociale dans l'entreprise, quand le Front National est à 25% dans les urnes. Ils en ont pourtant, tonne Libération, la responsabilité.
Les États-Unis sont aussi à la une, même si Bernie Sanders fait de la résistance, Hillary Clinton doit être la candidate démocrate à la Maison-Blanche.
Hillary Clinton est désormais assurée de disposer du nombre de délégués suffisants pour obtenir l'investiture du Parti démocrate, mais le chemin s'annonce encore long et parsemé d'embûches. Pointe sud-ouest, sud-ouest qui souligne ce paradoxe, alors qu'en France, les primaires semblent entrer dans les mœurs, aux États-Unis, qui les pratiquent depuis près d'un siècle, elles aboutissent à la désignation de deux mal-aimés dont l'un suscite la haine et l'autre le rejet. Donald Trump a même été élu contre la volonté de son parti, s'exclame Sud-Ouest. On pouvait penser que les primaires aboutissaient forcément à la désignation de candidats plus consensuels et donc mieux à même de l'emporter. Ça n'a pas été le cas cette année aux États-Unis. Un beau sujet de réflexion pour les politologues français. Hillary Clinton, qui n'est donc pas encore au bout de ses peines, pointe aussi la montagne. L'ex-première dame cumule un certain nombre de handicaps. Une réputation de calculatrice froide, ambitieuse et cynique. Elle symbolise l'establishment politique que l'Amérique d'en bas n'a jamais aimé. Bien sûr, tempère le journal, dans cette Amérique d'en bas, il y a, outre des abstentionnistes, la grande majorité des latinos, noirs et asiatiques. Beaucoup voteront pour la candidate des minorités, mais il y a une autre Amérique, relève encore la montagne, celle des blancs des classes populaires, voire moyennes, hantées par la précarité et par l'angoisse du descendeur social. Donald Trump est leur héros. Il y a quelques points communs entre ce phénomène-là, conclut la montagne, et la poussée prévisible de Marine Le Pen en France.
Merci Frédéric Couteau. Cette revue de presse est à retrouver sur notre site internet rfi.fr.